Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Il est 8h40, il y a de l'ambiance sur ce plateau, ça sent bon plein frais grâce à vous Stéphane Manigold, le patrimoine
immatériel
de l'humanité est sur ce plateau avec ses belles baguettes qui sortent du four. Merci. Et puis il y a François Roudier et Gaël Sliman. François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile, avec des chiffres, ça va un peu mieux mais on n'est pas encore sorti de la crise. Et vous nous disiez en arrivant, qu'on lui demande comment ça va, on s'habitue aux crises.
Tout à fait.
C'est ça maintenant là.
Crises se superposent comme un millefeuille maudit et on devient maintenant habitué à une crise qui est structurelle et une crise s'ajoute à une autre.
Bah, dans l'automobile, par exemple, on a eu les chiffres ce matin.
Oui, on a eu des chiffres quand même relativement moyens avec des baisses sur un an et en même temps 136 000 de tête véhicules. 134 000 immatriculations. C'est moins bien qu'avant le Covid.
Oui, on devrait être à 160. Ouais. On devrait être à 160.
Par mois, d'immatriculation par mois.
Ouais. Sur ce mois de novembre. Ouais. Hein. Et on a sûrement perdu le marché à 2 millions de véhicules par an qu'on connaissait en France. Il sera entre 1,5, 1,6, peut-être plus.
Mais ça veut dire que les Français, ils auront moins de voitures ?
Alors c'est un problème. C'est un problème parce qu'on voit qu'on a perdu à peu près 1 600 000 voitures depuis la crise du Covid.
Bah oui.
Cet énorme trou lorsque tout était fermé, pas de production. Et ces voitures-là, elles n'ont pas existé en neuf, donc elles n'existent pas en occasion. D'où une baisse d'offres en occasion qui est assez terrible actuellement. Vous avez à peu près plus du tiers des transactions qui se font sur des véhicules de plus de 15 ans. Hein. Ouais. Donc on est asséché. Et vous ne pouvez pas trouver ces véhicules ailleurs en Europe parce que tous les pays européens sont dans le même problème.
Là-dedans, les constructeurs français ne s'en sortent pas très bien.
Alors les constructeurs français s'en sortent, je dirais, pas si mal que ça par rapport aux constructeurs allemands qui actuellement ont d'énormes problèmes à gérer. Alors ils les ont eus sur des crises comme le câble qui venait d'Ukraine, l'énergie qui pose un problème, des problèmes aussi chez certains pour faire les logiciels qui représentent la valeur de demain. Donc on voit que le look de la voiture actuelle, plutôt électrifiée, plutôt moyenne, c'est plutôt ce que font les Français et les Italiens.
Bon, alors la fin de la crise, c'est pour quand ?
C'est une excellente question.
Non, parce qu'on voit une résilience quand même incroyable. Oui. Ça fait 2 semaines de suite qu'on reçoit des directeurs de l'ingénierie de chez Renault qui annoncent des contrats, des évolutions industrielles quand même majeures. Il y a de la résilience. On est meilleur en crise.
Alors, il y a de la résilience. Effectivement, il y a une habitude à la crise. Hein. Moi, j'ai vu se monter des cellules de crise qui, maintenant, sont quasiment des directions opérationnelles qui travaillent tous les jours. Alors, extrêmement bien gréées avec des gens qui viennent de tous les côtés dans l'entreprise, hein, de la fabrication, des gens des achats, des gens des affaires publiques. Et c'est en train de se structurer et c'est plutôt bien. Mais vous savez, on est dans un grand changement dans l'automobile où la crise est permanente. On annonce des choses fabuleuses sur les batterie, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Et puis, hier, on a, en liquidation judiciaire, une société de fonderie, aluminium, dans le même temps. Ouais. Donc on voit qu'on est dans ce changement réel maintenant.
Stéphane Manigold, président du groupe Éclore, la fin de la crise, c'est pour quand ?
Écoutez, j'ai un mug de café, il n'y a pas de marre, donc je peux pas vous répondre, mais on espère le plus tôt possible. Pour rebondir sur l'industrie automobile, mais de façon assez générale, notamment là, principalement sur l'automobile, les marges, elles ont quand même progressé, il faut le dire.
Ça.
Aujourd'hui, il y a une rareté. J'ai quand même 20 ans d'automobile derrière moi, rappelons-le quand même, même si je suis aujourd'hui restaurateur, j'ai fait la grande démission, comme on peut
appeler. Vous êtes restaurateur et pas réparateur, le lapsus est révélateur.
Oui, c'est...
Vous avez dit je suis réparateur.
Ah,
au lieu de restaurateur.
Ah, ça, mais restaurateur, vous êtes toujours de l'emploi. Restaurateur de l'emploi, restaurateur de l'artisanat français. Vous voyez, on a ramené une baguette pour faire un joli clin d'œil à nos amis artisans boulangers. Non, mais l'industrie de l'automobile, j'ai eu mes confrères au téléphone. Oui, il y a de la rareté. Oui, il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais les marges, elles sont beaucoup plus fortes puisqu'ils font beaucoup moins de remises qu'avant. Il y a des aides sur l'automobile, notamment 7000 euros sur l'acquisition d'un véhicule électrique. Les Américains s'y mettent. Ils ont mis 7 500 dollars aujourd'hui sur l'acquisition d'un véhicule neuf. Mais et ils vont plus loin que l'Europe.
Avec des contraintes.
Made in USA.
Oui, made in USA. Et ils vont plus loin. Ils vont même donner jusqu'à 4 000 $ pour les véhicules d'occasion.
Ouais.
Donc, ils vont. Il y a deux primes aujourd'hui aux États-Unis.
Un mot d'ailleurs, cette prime américaine.
Oui. Ah bah c'est le comeback des États-Unis dans l'automobile. Il y a 15 ans, vous aurez parié sur l'industrie automobile, c'était nul. Les voitures américaines étaient des véritables poubelles, mal assemblées. Maintenant, ce qu'on voit, c'est ce comeback terrifiant des États-Unis.
C'est alors cela, quoi.
Sur leur marché eux-mêmes. Et puis après, lorsqu'on vous dit 40% de la valeur d'une voiture, ça va être le logiciel. Qui fait les logiciels, on les connaît. Hein, donc on a.
Les GAFAM.
Voilà, on a ce point-là. Et derrière, alors oui, les mesures assez protectionnistes, assez fermées d'ailleurs. Hein, parce que la prime sur l'électrique va se faire sur des usines qui sont syndiquées en plus. Donc les gens du Sud non syndiqués se mettent à hurler. On voit que c'est quand même extrêmement.
Mais vous dites quoi ? Faut qu'on fasse pareil en Europe ou vous dites on n'y arrivera pas ?
Alors, pour l'instant, le marché de l'électrique, il faut qu'il soit subventionné, il faut qu'il soit tenu, sinon il ne peut pas décoller. Il va s'arrêter d'un seul coup. Les Allemands ont eu un sacré coup d'ailleurs, parce que le gouvernement allemand a diminué la prime et on a vu tout de suite une certaine baisse. Donc, il faut le faire. Est-ce qu'on peut le faire ? Ça va.
Parce que est-ce que ça change quelque chose quand on passe la prime de 6 000 à 7 000 €? On se dit finalement, ça change pas grand-chose dans l'acte d'achat. Le prix du véhicule est tellement cher que finalement, c'est pas 1 000 € qui change savoir si vous allez acheter un véhicule
alors
électrique
si, ou
pas.
Alors si, ça peut changer sur les entreprises en particulier où vous avez ce qu'on appelle voilà le coût total d'utilisation, le TCO pour parler en langage auto. Où là, oui, vous pouvez très bien commander moins de voitures.
Ouais. Gaël Slimane, cofondateur, président de Doxa, comment les Français voient cette crise qui est au-dessus de leur tête, qui les concerne en grande partie avec le pouvoir d'achat et l'inflation, mais dont ils sont très inquiets pour les prochains mois?
Ils sont très angoissés, nos concitoyens. Ça fait quelques mois que ça dure. On a l'impression que ça empire mois après mois sur tous les indicateurs de morale économique et de perception. Dans notre baromètre économique avec Abeille Assurance, BFM Business et Challenge ce mois-ci, on a interrogé sur, comme d'habitude, le moral économique dans les chaussettes. Hein, 8 personnes sur 10 se disent plus défiantes en l'avenir depuis ces dernières semaines. Mais on a interrogé aussi sur tout un tas de comportements de consommation détaillés. Et je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire sur l'automobile, parce que pour le coup, on fait des études. Moi, je fais des études sur l'automobile depuis aussi une vingtaine d'années.
Ouais.
Et depuis ces dernières années, en plus des aspects crise qui viennent de se greffer, il y a un aspect environnement, changement des modes de mobilité, changement des modes de consommation. Donc, sur des aspects moins conjoncturels que la crise que nous traversons, espérons-le, on a quand même un changement de regard sur les transports et sur l'automobile. Là, dans le sondage, on a quand même 35% de nos concitoyens qui nous disent qu'ils ont modifié leur mode de déplacement en voiture. Et il suffit de regarder ici à Paris ou dans les grandes villes combien de personnes ont. Il y a eu une première vague dans laquelle j'étais, qui a consisté à prendre un scooter plutôt qu'une voiture, parce que ça devenait l'enfer de se rendre au travail dans Paris en voiture. Et on est maintenant sur la deuxième vague, celle des autres moyens électriques, type vélo électrique, trottinette électrique. Donc tout ça, à un moment donné, ça ne peut quand même qu'avoir des conséquences profondes sur le modèle industriel.
Et dans votre baromètre, il y a la question de l'inflation ressentie. C'est alors comme là, la météo avec le froid. On est quand même deux fois plus que les chiffres de l'INSEE.
Ouais, deux fois et demi même, puisque le mois dernier, je vous ai dit, c'est incroyable, on est presque deux fois plus. Là, l'inflation est à 15,8%.
Dans la tête des Français.
Dans le ressenti.
Alors, dans le ressenti,
mais c'est normal parce qu'on voit beaucoup l'alimentaire, et l'alimentaire, il est à 15%.
Eh bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire ils sont assez calés, en fait, sur les prix qu'ils voient le plus souvent.
Mais bien sûr.
L'alimentaire, l'énergie.
Vous et êtes l'automobile.
L'automobile, les carburants. En fait, ce type de dépenses récurrentes bien qui sûr. Reviennent systématiquement, vous voyez effectivement des progressions, si j'ose dire, à deux chiffres sur l'inflation. Et donc, cette inflation ressentie, elle nourrit cette défiance en l'avenir.
Stéphane Manigold, il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Vos restaurants sont pleins, les avions sont pleins. Pour Noël, il n'y a plus de place. Les billets d'avion ont augmenté de 30-40%. Et on nous dit que les Français sont déprimés, qui craignent pour leur pouvoir d'achat. Les restos sont pleins, Stéphane. Vous n'avez pas dit le contraire.
Alors, on va avoir un spectre international. Londres, Royaume-Uni, qui connaît quand même une crise profonde sur l'inflation, les restaurants sont pleins. Le loisir, tout ce qui est, entre guillemets, qui peut faire plaisir rapidement, à des coûts accessibles, ça marche. Mais pas que la restauration, l'artisanat, et c'est tant mieux. Ce qui, aujourd'hui, pose problème, c'est les investissements à moyen et long terme. On le voit bien dans l'immobilier, par exemple. L'immobilier recule fortement, pour plusieurs raisons. Augmentation des taux, en France, on est passé à 2,5%, lorsqu'on empruntait encore il y a quelques mois à 0,8-0,9%. Aujourd'hui, on a 2,5%. Les États-Unis sont passés à 7,5% sur les taux immobiliers. Donc, on voit bien que tout ce qui va être investissement moyen et long terme va reculer, et tout ce qui est plaisir au fond,
on brûle la vie au jour le jour.
Non, puis c'est pas bah oui, mêmes... profitons de la vie parce que non, la vie est belle et puis on se dit.
D'accord, mais quand on stresse, on épargne, Gaël.
Non, mais
c'est
ce ne sont pas les mêmes gens. C'est-à-dire que, rappelez-vous, les explosions de l'épargne pendant la période Covid, et vous aviez aussi, mais la plupart des gens n'ont pas pu le faire. Ceux qui le font, ont les moyens de le faire et le font massivement. Et nous, ce qu'on enregistre dans les enquêtes ou ce qu'enregistre l'INSEE, ce sont des moyennes, ce sont des indicateurs qui agrègent tout. Vous avez des drivers de consommation, vous avez des catégories de population qui peuvent se permettre de dépenser, mais pour une grande majorité de Français, aujourd'hui, c'est plutôt se serrer la ceinture et regarder à gauche ou à droite, alors peut-être se faire plaisir ici ou là, mais sinon on voit les images de supermarchés, et ben peut-être regarder un peu plus les prix et puis faire un petit peu plus d'efforts.
Ça coûte des fois moins cher d'aller au restaurant, et je le dis avec beaucoup d'assurance, d'aller au restaurant que d'aller faire ses courses avec l'inflation, le prix de l'énergie qui a augmenté même s'il y a le bouclier tarifaire. Quand on fait le coût total de son caddie, vaut mieux aller dans un bistrot de quartier, ça coûte des fois moins cher.
Sur les questions de fermeture en lien avec la facture énergétique, la dernière fois qu'on s'est vu il y a 10 jours, on était encore à la menace de certains restaurateurs autour de vous. Là, est-ce que vous voyez que ça avance, le mur énergétique arrive?
Ah, le mur énergétique, on est en plein dedans. Depuis qu'on a parlé, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous avons des auditeurs qui nous écoutaient, des restaurateurs qui étaient dans l'acquisition d'un établissement. Et je disais ici même qu'aujourd'hui, je ne regarde plus l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'une société sans regarder le contrat énergétique. Si le contrat énergétique ne va pas au-delà de 2 ans, je ne regarde même pas le dossier, quelle que soit la valeur du fonds de commerce. Et on constate aujourd'hui, donc du coup, cette auditrice demande à son avocat de mettre une clause, en demandant, une clause suspensive, en demandant de mettre le document du contrat énergétique.
Pas,
il se trouve que ça, il s'arrête en décembre. Elle a annulé sa vente. Et donc ça, là où on va avoir un vrai sujet, c'est sur la reprise des fonds de commerce. Aujourd'hui, je reçois énormément de fonds de commerce disponibles dans Paris, dans le 6e, où c'était inaccessible, sans pas de porte, sans rien, juste un loyer, des établissements totalement équipés. Mais quand vous passez de 3% de votre chiffre d'affaires énergétique à 24%, voire 50% du chiffre d'affaires, vous ne retrouvez plus de preneurs.
Ça veut dire que jusqu'à présent, sur ce plateau notamment, parce que les résultats des entreprises sont bons, trimestre après trimestre, parce que beaucoup d'activités sont reparties, vous dites que peut-être que le début de 2023 va devenir plus compliqué. Les factures d'électricité, vous nous avez apporté des baguettes, on en parle tout à l'heure avec Valérie Rabault. Il y a beaucoup de boulangers qui sont au-dessus des 36 kWh de puissance installée.
Absolument.
Et qui ne sont pas concernés par le bouclier tarifaire. Il y avait les bouchers qui ont fait aussi, qui ont arrêté de conformer leur magasin pendant 2 heures il y a 2 jours. Tous ces métiers-là, ils sont menacés de mort en termes de compte d'exploitation.
Vous avez tout à fait raison. Vous voyez là, cette baguette, elle est produite par un artisan qui nécessite plus de 36 kVA en matière d'énergie. Donc il est forcément en tarif jaune. Un dépôt de pain qui produit via une centrale d'achat, lui, il n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, l'État protège pas les artisans. Donc Madame Olivia Grégoire, qui était très fière, qui a fait un joli tweet pour se féliciter que la baguette rentre au patrimoine immatériel de l'UNESCO, eh bien, il faudrait pas que ce patrimoine immatériel de l'UNESCO soit le plus court de l'histoire dans le monde. Parce que si on ne réajuste pas les dispositifs...
Donc il faut enlever les 36.
Il faut enlever les 36. Et
bien
après, allez, soyons clairs. Lorsqu'il y a ce critère de 36 kVA, mais après il y a deuxième critère qui est la définition de la TPE, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, c'est une aberration sans nom. Quand moi je fais sur un établissement 1 950 000 euros, donc moins de 2 millions, je rentre dans le critère, eh bien je ne suis pas protégé, parce que pour faire 1 950 000 il faut 23 salariés. On pénalise l'intelligence de la main au profit de l'intelligence industrielle. Est-ce qu'on veut une France des kebabs et de la malbouffe, ou est-ce qu'on veut des artisans de proximité qui continuent à faire rayonner le tissu social de ce pays? La question elle est posée.
François Roudy, encore une question, parce qu'on a ces chiffres effectivement du marché automobile depuis cette nuit là sur le mois de novembre. Sur l'année, on va être quoi, sur une baisse du marché encore de 8% en moyenne, 8-9%?
Oui, on sera à peu près équivalent à l'année dernière s'il y a plus de livraisons en décembre.
Mais tout à l'heure, vous nous avez dit il y a moins de voitures à vendre, on a perdu 1,6 million de véhicules pendant la crise. Donc ça veut dire que les prix de l'automobile, et neuf et d'occasion, pour continuer d'augmenter, mais...
La voiture devient de plus en plus chère.
La voiture devient plus chère. de toute façon, on savait qu'il y avait une augmentation liée à tout ce qui est sécurité qui coûte plus cher. Ouais. Regardez un rétroviseur maintenant et un rétroviseur R16, vous avez un miroir de compagnie, et puis maintenant, il y a ce truc qui vous signale si vous, on est en train de vous doubler. Donc tout ça a un coût.
Ouais. Hein,
donc
ça, on plus le savait. La transformation électrique.
Alors la transformation électrique, là aussi...
Ça veut dire l'industrie du luxe, l'automobile.
C'est cher, et les baisses de prix envisagées par effet d'échelle restent quand même extrêmement faibles, hein, lorsqu'on voit les prévisions. On n'est pas du tout dans ce qui s'est passé, par exemple, sur le moteur diesel, où on a vu assez rapidement une diminution du prix. Et les problèmes de l'énergie dans l'industrie sont très très lourds. Hein. Il faut voir que pour les équipementiers, on a des situations dramatiques actuellement qui sont tout à fait équivalentes aux autres.
Merci à tous les trois. On va retrouver Gaël Sliman, président de Doxa, dans Les Experts, aux côtés de Nicolas Dose dans quelques instants. Puis ne manquez pas ce rendez-vous à l'antenne de BFM Business tout à l'heure à 19h15.
Margrethe Vestager sera l'invitée d'Audrey Tcherkov et Thomas Asportas. On reparlera bien sûr de cette Europe et ces États-Unis qui semblent partir dans deux directions opposées. On se retrouve demain, 6h, 9h. Merci à tous les trois d'être venus dans Good Morning Business. À demain. Bonne journée.
Et on vous nous retrouvez sur le podcast et les replays.
Bien sûr.
D'habitude, vous
surtout,
dites ça.
Oui, c'est vrai. Mais là, je ne sais pas, je l'oublie. Bien sûr, et vive les artisans. Un dernier mot, il reste dans 6 secondes. Allez, à demain. Bonne journée.